Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Souvenirs des glaces, le podcast des mémoires de glaciologues de A à Z. Pour ce nouvel épisode, embarquons pour la lettre J comme journal scientifique. Durant les années 80, des scientifiques français en collaboration avec les soviétiques travaillent sur des échantillons issus d'une carotte de plus de 2000 mètres réalisée à Vostok, une station soviétique basée en Antarctique. À Paris-Saclay, Jean Jouzel et son équipe travaillent sur la teneur isotopique de la glace pour retracer la température des années passées. À Grenoble, Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola et Jérôme Chaplaz étudient les molécules présentes dans les bulles d'air. Après plusieurs années de travail, en 1987, trois articles sont publiés dans le journal scientifique Nature. Ces articles marquent la communauté scientifique car ils établissent le lien entre la température et la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Jean-Robert Petit nous raconte les événements qui mènent à la publication des trois articles de 1987 qui marquent un tournant dans la compréhension du climat.
Lorius, lui, il était intéressé par la glace et à l'époque, il y avait un isotopiste soviétique qui s'appelait Gordienko. C'était le gars qui était installé à l'Institut de géographie à Moscou et qui avait son spectre de masse soviétique, mais il arrivait tant bien que mal à faire des mesures, et il a fait des mesures sur un forage de 500 mètres de profondeur, toujours une série à Vostok. On voyait l'Holocène et puis la période glaciaire.
L'Holocène est une époque géologique qui débute il y a 11 700 ans et se continue encore aujourd'hui. Cette époque géologique fait partie de la période du Quaternaire.
Lorius a proposé d'étudier non pas des isotopes, mais comme il voulait apporter quelque chose de différent, donc il a dit on va prendre des échantillons et ça sera de la chimie. Et c'est Martine de Angelis qui a étudié la chimie de cette carotte sur les 900 mètres en 75. En 78, il y a eu l'opération de Dôme C, et qui fut un succès parce que les isotopes étaient mesurés donc par Liliane Merliva et Jean Jouzel à Saclay. Et puis, on commençait à parler donc de différences de température, d'interpréter les isotopes en termes de différences de température. 30 000 ans sur 900 mètres avec un détail comme jamais on a eu. Enfin, c'était une première également pour le laboratoire. Et disons que Lorius a marqué des points à ce moment-là. 1975, un dictateur décède, Franco décède. Qu'est-ce qui vient venir dans cette histoire? Mais après donc le décès de Franco, le roi Juan Carlos, qui veut que l'Espagne instaure la République en Espagne, la démocratie en Espagne, décrète que tous les réfugiés politiques espagnols qui avaient fui le régime de Franco peuvent rentrer en Espagne et s'installer normalement. Il se trouve que Gordienko, l'isotopiste soviétique, était marié avec une Espagnole qui était réfugiée. Son rêve, c'était de retourner chez elle. Elle est retournée en Espagne et emmenant son mari. Et Gordienko a laissé. Il n'y avait plus d'isotopistes soviétiques. Le carottage arrive à 2000 mètres de profondeur. Il a été commencé en 79 et les 1400 premiers mètres ont été analysés, sélectionnés sur place par Lipenkov. Lipenkov hivernait, c'était son premier hivernage à l'époque, et il a mis consciencieusement donc dans des petits sachets des petites bouteilles qui ont été envoyés à Moscou d'abord. Ces petites bouteilles d'échantillons, donc une tous les 2 mètres, ça fait 700 bouteilles sur les 1400 premiers mètres, ont été envoyées à Moscou, mais à Moscou, il n'y avait plus personne. Donc ils sont revenus à Saint-Pétersbourg. En 1982, quand Lorius arrive à Moscou, à Saint-Pétersbourg, pour une réunion du SCAR, où on lui propose la collaboration, Lorius est venu avec des valises remplies de bouteilles, des flacons, d'échantillons du forage.
Le SCAR est le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique. Ses objectifs sont de déterminer le rôle de l'Antarctique dans le système climatique, d'élargir les connaissances sur le continent blanc et d'étudier l'effet du changement climatique.
Bon, malheureusement, cette série de 1982 des isotopes, comme elle avait transité, elle était restée longtemps dans les laboratoires, et puis il n'y avait pas de solution, donc dans les flacons se sont un peu évaporés, et les isotopes ont été un petit peu biaisés. Voilà, donc on a une première série qu'on appelle la série 1982, qui n'était pas très bon. Enfin, on voyait déjà le profil glaciaire, mais c'était pas très bon. Et quand ensuite on a eu la glace, donc on a repris des échantillons, c'était un échantillon tous les 25 mètres sur 2000 mètres, on a pu retrouver donc le profil, plus on avait une série de 1400 mètres à 2000 mètres de profondeur. Et là, donc on a pu faire des mesures originales, enfin les mesures qui sont non biaisées par des problèmes d'évaporation. Pour moi, je comprends l'offre qu'ont fait les Soviétiques à Lorius. Moi, j'appelle ça un cadeau royal, on peut dire ça. Mais c'était un petit peu sur, d'une part, la renommée que Lorius, au niveau des relations personnelles entre les gens, d'autre part sur la renommée scientifique qui s'était faite au travers du Dôme C, et puis sa suggestion également d'utiliser les isotopes comme paléothermomètre, donc c'est son papier de 75, toujours présenté à l'UGGI à Grenoble. Donc ça a lancé un petit peu ces choses. En 1982, donc avec ces nouveaux échantillons, on a dû avoir donc toute la série, ça devait être en 83, on avait tous ces résultats. Quand Saclay a envoyé les résultats, il m'a appelé dans son bureau en me disant « Bon, ben voilà, les résultats de Vostok, on voit toute la période glaciaire, l'interglaciaire précédent, et puis ensuite, ça redescend dans le glaciaire précédent, on est à 150 000 ans. » C'est formidable, voilà. C'est formidable. Et avec ça, ça va faire mal. Il dit, avec ça, ça va faire mal. Ou on va faire un malheur. Quelque chose comme ça. C'était vraiment... c'était la première fois qu'on avait le dernier interglaciaire et le glaciaire précédent. Parce que c'était plus loin que le camp Saint-Uri. C'était plus détaillé. Il n'y avait pas de problème de bedrock. Et puis, le signal était merveilleux. Suite à cela, donc, il a pris contact à nouveau avec les Américains, avec son collègue Dick Cameron, qui était directeur de la NSF, la division des programmes polaires, et qui a vu également l'intérêt. Il a dit « pas de problème, on vous emmène à Vostok ». Donc a été envisagée la campagne à Vostok, 84-85.
La NSF est la Fondation nationale pour la science américaine. Elle soutient la recherche et l'éducation dans tous les domaines de la science et de l'ingénierie.
L'idée, c'était que trois personnes allaient sur place pour collectionner en détail et en continu de nouveaux échantillons sur la carotte, principalement entre 1000 mètres et 1400 mètres, cette série qui était un petit peu biaisée, plus faire la collection d'échantillons pour les mesures des gaz, en particulier du CO2. Suite à cette mission, on sortira les trois papiers de 1987 sur Vostok. Les trois papiers de 87 ont eu un impact, on peut dire un Big Bang dans la communauté scientifique, avec donc le papier isotope, avec la datation 150 000 ans, datation un modèle, et mais c'est surtout le profil de CO2 de Barnola qui a fait vraiment la révolution et qui a attiré l'attention des océanographes.
Merci à Jean-Robert Petit pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans quelques jours pour les lettres K comme Kerguelen et L comme Libutry et Lorius.